Cette semaine, dans l'Olivret, nous recevons Vincent Chalet, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Et on s'intéresse à l'époque médiévale, on s'intéresse particulièrement à la révolte des Tuchins. Et on va en arriver au cours de la semaine à parler comment les Tuchins ont pris possession du château des Guèzes.
Oui, tout à fait.
Et donc les Tuchins, on a découvert que ce sont des paysans qui ont pris la touche, c'était Tuchins, qui ont fui des armées, les routiers, et qui se sont dit, bon, nous, on va se mettre de côté, on amène bétail, tout ça. Mais finalement, ils se sont organisés. Alors, ce qui m'a étonné dans ce que vous m'avez dit hier, c'est que finalement, ils se sont organisés en bande assez organisée, avec un capitaine, des bannières, de la musique. Et quand ils rentrent dans un lieu, ils font savoir qu'ils sont là.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Sûrement pour faire fuir les routiers ou...
En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'ils adoptent la structure militaire des routiers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces compagnies d'hommes de guerre ont cette structure-là. Et donc, pour être plus efficaces et pour les combattre plus efficacement, ils adoptent tout simplement la même structure militaire et la même organisation. Et ça leur donne finalement la possibilité aussi d'avoir une rapidité d'action, une rapidité d'action, de rassemblement et puis évidemment de dispersion derrière. On se rend compte, contrairement à ce qu'on pensait à l'origine, que la plupart sont montés, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval. Alors quand ils entrent dans les villes, ils sont plutôt démontés, mais on les voit donc organiser de véritables parades militaires à Bagnols-sur-Cèze, à Pont-Saint-Esprit, à Uzès. On les trouve à Alès, on les trouve à Nîmes. Donc, ils ont une présence qui est une présence extrêmement forte. Alors, j'ai surtout parlé des paysans, mais il y a aussi une dimension urbaine. Donc, il y a aussi des Tuchins urbains. Ce qui fait d'ailleurs la force du mouvement et son originalité, c'est que ces paysans, ils sont accueillis dans les villes assez librement, mais aussi parce qu'une partie de leurs membres habitent dans ces villes-là. Et donc font partie, en fait, du peuple urbain, de ce qu'on appelle les populares à l'époque médiévale.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous m'avez dit que c'est une révolte qui est assez répandue en Occitanie. On n'est pas à l'époque d'Internet, là. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram. Comment ils ont fait pour communiquer entre eux et est-ce que cette organisation militaire s'est faite spontanément partout en même temps? Est-ce qu'il y a eu des liens entre eux? Est-ce qu'ils se sont communiqués des infos? C'est intriguant quand même.
Alors, je pense qu'il y a une organisation qui est une organisation plutôt spontanée à l'origine. C'est-à-dire que finalement, ce modèle de la compagnie militaire de 20-25 membres avec un capitaine, c'est un modèle qu'on retrouve quand même de manière assez courante parce qu'il est relativement simple à organiser et relativement efficace. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que pour des opérations qui sont des opérations plus ponctuelles, on va avoir union de compagnies militaires, c'est-à-dire plusieurs compagnies militaires qui vont se rassembler. C'est ce qu'on va voir à propos des Guèzes, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc là, on a une mise sur pied, disons, d'une organisation, alors on va dire régionale. Par exemple, on voit que lors d'un combat, on a du côté de Nîmes des Tuchins qui viennent, par exemple, de Bagnols-sur-Cèze ou de Pont-Saint-Esprit. Mais en revanche, on n'a pas véritablement d'organisation au niveau régional. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, des Tuchins de la région de Nîmes aller combattre dans le Toulousain ou l'inverse. Donc on a une organisation plutôt, disons, sur l'échelle de ce qu'on appelle la sénéchaussée. Donc une organisation qui est un peu plus petite que l'ensemble de la province et l'ensemble du Languedoc. Et ensuite, ces gens-là, ils communiquent entre eux. Ils communiquent tout simplement par des messagers. C'est pas si compliqué que ça. Faut pas croire que l'information circule assez vite à l'époque médiévale. Alors peut-être pas par rapport à nos standards.
Non, mais nos standards sont inatteignables.
Mais l'information circule. Les gens sont, contrairement à ce qu'on peut penser, relativement mobiles au Moyen Âge. Ils bougent beaucoup. Ils bougent beaucoup et donc il y a des messagers, le plus souvent à cheval d'ailleurs, évidemment, qui sont capables de transporter des nouvelles. Et donc on voit ces bandes communiquer entre elles, par exemple. Et ce qui assure finalement une sorte de coordination à l'échelle régionale, ce sont les états de Languedoc. Donc vous avez à l'époque médiévale ce qu'on appelle des états généraux. Les états généraux pendant la guerre de Cent Ans sont divisés en deux, entre des états généraux qui se tiennent à Paris, les états généraux de Languedoc, et les états généraux de Languedoc, qui se tiennent en Languedoc et qui sont itinérants, eux. Ils ne sont pas à Paris. Les états généraux de Languedoc, ils sont toujours à Paris.
Oui.
Les états généraux de Languedoc se tiennent une fois à Toulouse, une fois à Montpellier, une fois à Carcassonne, une fois à Narbonne, une fois à Béziers, une fois à Nîmes, etc. Donc, ils n'ont pas encore, disons, de place fixe.
De capitale. Voilà. D'ailleurs, ils n'en ont toujours pas tout à fait non plus, parce qu'aujourd'hui, la grande région, c'est entre Toulouse et Montpellier. À quel rythme ils se réunissent, les états généraux?
Alors, à l'époque, pendant la guerre de Cent Ans, ils se réunissent très régulièrement. Et ils se réunissent très régulièrement parce que le roi a besoin de leur consentement pour lever des impôts. On est encore à une époque qui fonctionne selon le principe féodal, qui fait que le roi doit vivre du sien. C'est-à-dire le roi doit vivre de ses propres revenus et de son propre domaine. Il peut lever un impôt, mais pour lever un impôt, il a besoin du consentement de la population. On n'est pas encore sur l'impôt permanent. Hein. L'impôt permanent, il va être mis en place à l'époque de Charles VII, dans les années 1437-1440 à peu près, hein, pas avant. Et donc, comment est-ce qu'on requiert le consentement de la population? On le fait par le biais, en fait, des états généraux.
Et qui est convoqué à ces états généraux?
Alors, ceux qui sont convoqués aux états généraux, bon, il y a évidemment des clercs, hein, donc des membres de l'Église, plutôt des hauts dignitaires.
Les oui, états... qui sont seigneurs d'une certaine manière. Ils possèdent des terres, ils possèdent des droits, ils possèdent des biens.
Tout à fait. Donc il y a aussi des nobles, hein, qui sont convoqués, mais il y a aussi des membres de ce qu'on appelle le tiers-ordre à l'époque médiévale, qui sont essentiellement des représentants des grandes villes. Représentants des grandes villes ou de ce qu'on appelle les bonnes villes.
Les bonnes villes.
Oui, les bonnes villes, c'est une expression très médiévale.
Je connaissais
pas. Les villes qui sont fidèles à la royauté, qui paient bien l'impôt d'ailleurs également. Et donc ce sont essentiellement des bourgeois qui sont présents lors de ces
donc,
états généraux.
Pour le Gard, quelles étaient les bonnes villes du Gard?
Alors Nîmes évidemment, Alès, Uzès, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze.
Ah oui.
Essentiellement.
Bagnols-sur-Cèze aussi.
Oui. Mais je dirais que l'une des grandes différences aussi, c'est que le monde médiéval est une société qui est une société que les anthropologues appellent une société de face-à-face. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des villes qui sont relativement petites. Hein,
oui.
Où finalement tout le monde se connaît.
Oui.
Et donc où les populaires savent très bien qui est consul, où est-ce qu'il habite, et ils le croisent tous les jours. Autrement dit, le dialogue social et politique est quand même beaucoup plus proche que dans une société comme la nôtre. Et ces consuls des bonnes villes, ils sont quand même sous pression. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se contenter, comme on le fait aujourd'hui dans le monde politique, de rester complètement sourds au mécontentement des populations. Et pour une bonne raison, c'est qu'ils y risquent leur peau. Hein, on a quand même, dans cette période-là, un certain nombre de révoltes qui sont des révoltes urbaines extrêmement sanglantes. Hein. C'est le cas à Béziers en 1381, quand le peuple se révolte, ils vont à la maison consulaire et ils y mettent le feu. Et les consuls qui sont dedans, ben, y en a qui meurent brûlés, enfin sans doute asphyxiés, il y en a d'autres qui meurent en sautant de la tour de la maison consulaire pour essayer d'échapper à l'incendie. Donc, ces gens-là, ils vivent quand même au milieu de la population, ils ne sont pas complètement isolés, hein, ils ne sont pas complètement coupés de la population. Et donc, ils essaient, d'une certaine manière, de faire un petit peu attention à ces revendications fiscales, à ce mécontentement populaire, etc. Et donc, ils portent aussi, d'une certaine manière, les revendications de la population.
Et donc, ces états généraux se réunissent, mais quoi, une fois par an?
Oh, c'est même plus qu'une fois par an. Ils se réunissent parfois dans la période, ça peut être deux ou trois fois par an.
Et s'ils se réunissent trois fois dans la même année, ça ne sera pas nécessairement trois fois dans la même ville?
Non.
Mais alors, si un état généraux se réunit à Toulouse, est-ce qu'il y a des gens de Bagnols-sur-Cèze qui vont venir jusqu'à Toulouse?
Oui.
Pour ces... Ah oui.
Eh oui, ce sont des délégués, ce sont des représentants.
Waouh. Et ça dure combien de temps?
Alors, les sessions des états généraux sont relativement variables. Hein, et ça peut être une semaine, 10 jours. Et donc, lors de ces états généraux, en fait, le roi ou le lieutenant du roi va demander un impôt, va oui. demander la perception de taxes, oui. va demander par exemple la levée de oui. la gabelle du sel. Et en échange, les états généraux ont la possibilité de présenter ce que l'on appelle des doléances, qui sont réunis dans des cahiers de doléances.
Donc une source énorme d'informations. On se retrouve demain, Vincent Chalet, pour continuer de parler de cette révolte des Tuchins et la prise du château d'Éguez en 1382. On va y venir. À demain.
À demain.